La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt.
Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt.
Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut. Très heureux d'accueillir, et c'est une chronique, ça fait au moins 2 ans que je voulais faire, c'est la business du sport. C'est qu'on entend parler de plus en plus de la business du sport un peu partout dans le monde des médias. Ray Lalonde était un précurseur, il fait des excellentes chroniques à RDS et également au 98.5. Et là maintenant, très heureux d'accueillir Charles Demers, qui est le directeur général des Capitales de Québec. Mais avant tout, c'est un gars qui a un doctorat dans le domaine du sport et de la business du sport. Salut Charles!
Salut Danny, ça va bien?
Ça va bien, ça va bien. Charles, on va essayer de faire une chronique une fois par semaine pour démystifier un peu la business du sport. Il y a de l'actualité autant que le monde du sport, en réalité, quand on regarde ça. Il y a beaucoup de choses. Quand tu les sites Internet comme Sportico et ainsi de suite, on voit qu'il y a de plus en plus de nouvelles. Depuis 2-3 ans, les médias s'attaquent beaucoup plus à la business du sport.
Oui, complètement. Là. C'est un sport qui est un modèle d'affaires qui est en constante évolution présentement avec les nouvelles plateformes de web diffusion, ouais. les deux zones de ce monde. Et,
le streaming est arrivé, le streaming avec les Amazon, les Prime et les YouTube et ainsi de suite. Là. Donc, exactement. Ça a vraiment explosé.
Exactement, c'est ça. Fait que ça Il y a beaucoup de parties à discuter. Il y a beaucoup de sphères qui est intéressante dans tout ça. Puis, ça me fait un plaisir de collaborer avec toi.
OK. Charles, on va commencer avec le premier sujet que je veux te parler. J'en ai parlé sur les médias sociaux en fin de semaine et je veux avoir ton opinion là-dessus. Moi, écoute, on voit de plus en plus des partisans dans les gradins. On annonce que de plus en plus les stades de baseball, les stades de hockey, vont être remplis à pleine capacité aux États-Unis. Ici, au Canada, il y a le Centre Bell qui va avoir 2500 personnes, mais c'est, à part de ça, c'est très tranquille. Moi, je m'attends qu'éventuellement, d'ici un mois ou deux, il y aura de la grosse pression mise par le baseball majeur, la MLS, la NBA, la Ligue nationale pour que nos équipes canadiennes rentrent au pays. Je pense, entre autres, il n'y a pas que les ligues, il y a l'association des joueurs qui vont s'en mêler aussi, là. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Ça ne pourra pas continuer longtemps de même.
Complètement d'accord avec toi, Danny. Il va falloir que ça bouge et il va falloir que ça bouge rapidement. Dans le sens qu'il y a beaucoup de ligues, présentement, on parle du Canadien, il y a beaucoup de ligues qui vont passer, qui devront mettre des pressions. Là, je pense il y a deux facteurs. Il y a la frontière qui est un problème et il y a la capacité de mettre un nombre respectable de personnes dans les estrades. Je vous dirais que c'est deux problématiques présentement on a fait un gros pas dans la bonne direction la semaine dernière en annonçant la capacité, la possibilité de mettre des gens dans les estrades. Bon, on s'entend que pour des ligues, exemple, comme les Capitales, pour les ligues comme l'Impact, ou que la billetterie est une partie très importante des revenus, c'est pas assez. Il va falloir que ça bouge plus rapidement que ça. Et les équipes ont hâte de revenir au bercail. Le syndicat des joueurs va faire partie de l'équation, c'est clair. Il va falloir que ça bouge. On pense présentement, on regarde, on se compare. On se compare à différents États américains où il y a une capacité très forte, une capacité, une belle capacité à mettre du monde dans les estrades, dans les gradins. Il va falloir qu'à un moment donné, la pression va être tellement forte. Sans dire que ça arrête de niaiser, il va falloir que ça va suivre son cours. On va dire que les éléments vont suivre son cours, mais j'ai l'impression que d'ici 2 mois, ça va bouger fort.
Parce que, regarde, hier, les Knicks de New York, tu es d'accord avec moi que la COVID a frappé fort à New York. Il y avait 15 000 personnes à Madison Square Garden pour le retour des Knicks. C'était à l'intérieur. Là. Le MSG à Madison Square Garden, c'est l'intérieur. Les Red Sox, c'est 29 mai, vont jouer à guichet fermé à Fenway Park. Dodger Stadium, on a annoncé la Californie, c'est très ça a confiné fort. Ils ont annoncé que le 15 juin, ils vont pouvoir jouer à guichet fermé. C'est la même chose dans tous les États américains. Donc, à un moment donné, je passe aux Jays après-midi qui vont jouer à Dunedin et par la suite déménagent à Buffalo. Déménage pas à Toronto, là. Déménage à Buffalo. Et ça, c'est des revenus de moins. Là. C'est sûr que c'est... Et là, je pense aux joueurs également. Les joueurs, ça ne doit pas être drôle non plus.
Là. Exactement, Danny. Puis ce qu'il faut penser, puis ce qui est plate dans tout ça, c'est que le poids, on va dire, le poids que le Canada dans le sport professionnel a au niveau de la Ligue est assez, on va dire, restreint. On va mettre le hockey de côté, ouais. Là, mais on va regarder là, les Blue Jays sont minoritaires en termes d'équipe. Ils viennent du Canada. On regarde là, et on dirait que on pourrait dire que leur importance, on les entend pas. On n'a pas vu ni le propriétaire de l'Impact, ni le propriétaire des Blue Jays. On n'a pas vu personne sortir encore présentement parce qu'on a l'impression que le poids politique est très inférieur. Si c'était l'inverse et que on avait des équipes, on avait 29 équipes sur 30 au Canada, ce serait peut-être différent. Donc, c'est peut-être que ça, le poids politique serait différent.
Sauf que l'association des joueurs représente des joueurs, qu'ils soient du Canada, qu'ils soient des États-Unis, qu'ils soient de notre pays, ça reste qu'il faut qu'ils voient la protection et de leurs membres également. Et les membres des Blue Jays, c'est vraiment pas l'idéal.
Non, effectivement, c'est pas l'idéal. Puis moi, je pense aux familles, puis je pense aux joueurs, je pense à tout le protocole qui vient avec. C'est pas une situation qui est facile, mais je suis confiant, Danny, ça va bouger.
Ouais.
Ça va bouger, ouais. Puis on se le souhaite là, le plus rapidement possible que ça va pouvoir reprendre. Tu sais, je pense à l'Impact qui en est présentement. Puis je pense aussi à la Ligue canadienne de football, par exemple.
50%,
exactement. Donc, eux autres, il va falloir que ça bouge rapidement. Et présentement, c'est pas seulement c'est la quarantaine, c'est la capacité de traverser la frontière sans faire de quarantaine. C'est ça qui est problématique.
Ouais, On va parler maintenant d'un deuxième sujet qui était très intéressant, c'est les paris sportifs. Les paris sportifs, c'est la nouvelle manne du sport, je pense que c'est. Tu sais, avant, tu avais les droits, c'était les spectateurs, c'était les commandites, c'était les droits de TV. Mais là, je pense que depuis un an, on a légiféré aux États-Unis dans certains États et dans plusieurs États même de ça, le pari sportif. Et ça, là, on vient de toucher une petite manne.
Exactement.
Ouais.
Ouais, mais tu viens de le dire. Je pense que les paris sportifs ont toujours été présents. Je pense qu'au cours des dernières années, c'est l'accessibilité aux paris sportifs qui fait la différence. Dans le sens que on peut dès maintenant, en temps réel, prendre un pari de notre salon sur le prochain but du Canadien. Et il est maintenant possible de miser sur à peu près n'importe quoi au sport. Donc, l'offre est complètement diversifiée dans le sens qu'on est capable de miser même sur la couleur du Gatorade au Super Bowl. Donc, on est capable de il y a une très grande offre et je pense que c'est un modèle, on va dire, le modèle de Paris est appelé aussi à changer, Danny, dans le sens que je serais curieux de voir les casinos, leur modèle d'affaires, comment il a évolué au cours des dernières années, dans le sens que probablement que le casino en ligne, le casino numérique, le casino le réel en ligne offert maintenant doit rapporter une grande part de revenus quand même.
Et ça, auparavant, tu pouvais juste miser sur le pointage. Mais là, maintenant, tu peux miser qui va marquer, qui va. Donc, ça augmente l'assiette de Paris est beaucoup plus grande.
Alors, complètement. Tu as une offre, là. Tu as une offre de est-ce qu'il y aura un but en deuxième période? Est-ce que. Maintenant, avec les algorithmes créés par justement ces sites de paris sportifs-là, bien, il est possible de maximiser, on va dire, les gains pour ces sites de paris-là, dans le sens qu'il y a des cotes qui peuvent paraître attrayantes, des cotes il y a des cotes qui sont un peu moins attrayantes, et j'ai l'impression que le fans l'attrait du sport est grandement servi grâce à ça. Dans le sens que je connais beaucoup de gens et dans les recherches, c'est démontré que les gens suivent davantage le sport parce qu'il y a un pari qui vient avec.
Ben oui, c'est ça, c'est les fameux poules de hockey, les fameux poules de baseball, les fameux poules, c'est ça qui donne une plus-value au sport et ce qui fait en sorte que le sport est plus couvert. Est-ce que tu sais les revenus, le pourcentage qui va aux équipes? C'est minime, mais étant donné qu'il y a tellement... Je sais que c'est Ray Lalonde, on avait déjà parlé, sauf que c'est tellement minime, c'est un pourcentage
c'est
minime.
Exactement, c'est très minime, c'est très, très, très minime. Là.
Je pense que c'est 1% ou 1,5%, mais...
Ah, c'est moins de 1%?
Ouais.
C'est moins de 1%, mais qu'est-ce qui est appelé? C'est appelé à changer. Parce que les équipes veulent justement pouvoir toucher à cette part de revenus-là. Tu sais, les modèles d'affaires dans la valorisation des équipes changent, évoluent au cours des dernières années. Puis le pari sportif, peut-être qu'un jour, fera partie du gâteau des revenus d'une équipe de sport professionnel.
Oui, effectivement. Dernier point, je veux parler d'une ligue qui est en parfaite santé. C'est la première ligue. Écoute, Sportico, qui est un site que je regarde beaucoup, on a mis les valeurs l'autre fois des équipes. Manchester, écoute, je pense que c'est 4 milliards, je pense. Et Manchester United a 680 millions de revenus cette année, je me m'abuse. Et tu sais, il n'y avait pas de guichet, il n'y avait rien. C'est incroyable, hein? On parle de la NFL, que c'est la plus grande ligue de sport au monde, et avec raison. Par contre, la première ligue, on est moins familier parce que c'est en Europe et ainsi de suite. Il n'y a pas de match à la TV beaucoup, parce que c'est tout rendu sur DAZN. Mais la première ligue, qu'est-ce qui fait que la première ligue est si populaire et autant de revenus?
Mais en fait, il y a deux affaires là-dedans. C'est que oui, il y a beaucoup de revenus qui viennent. La valorisation, parmi les. Tu disais la plus grande ligue au monde, c'était la NFL, là, mais dans les 50 équipes où qui ont la plus grande valeur, on va dire, bien, il y en a 29 qui proviennent de la NFL. Okay. Ce qui est important de comprendre au niveau de la Premier League, c'est la disparité entre la valorisation des équipes. Dans le sens qu'il y a 6 grandes équipes qui sont valorisées, super bien valorisées. La valeur, elle est supérieure à 2,8
milliards. Qui sont Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, je pense Tottenham est là-dedans aussi. Et Arsenal.
Et
Tottenham.
Et Tottenham, exactement. Puis Tottenham qui a eu une très, très bonne année d'ailleurs. Ouais. Et puis qui Je vous dirais que dans une ligue, dans une ligue dite normale, on va prendre la NHL, on va prendre la NBA, on va prendre la NFL. Par rapport à l'équipe qui a la plus grande valeur, par rapport à l'équipe qui a la moins grande valeur, ça va être environ 5 à 6 fois normalement.
OK.
Okay? Par contre, au niveau de la Premier League, c'est un autre monde. C'est comme si on avait deux ligues en une ligue. On parle d'une trentaine de fois la valeur de la dernière équipe. Je vais prendre par exemple Sheffield Sheffield United qui était justement rétrogradé l'année passée. Les autres ont une valorisation là, en bas de 100 millions là. Donc,
c'est parce que quelque part je pense que c'est une question de qu'on donne plus d'argent aux 6 équipes, c'est ça? Aux 6 grandes équipes dans les droits de télévision qui sont repartis, je pense, c'est ça?
Exactement, dans la valorisation d'une équipe il y a plusieurs facteurs à prendre en considération dont par exemple, le stade, dont la base de fans. Donc, on s'entend que la base de fans... le soccer est un sport mondial. Donc, la base de fans de Manchester United est beaucoup plus grande que Sheffield ou, par exemple, une équipe de très bas de classement qui va revenir d'une deuxième ligue, qui va monter en première ligue l'année suivante. Okay. On s'entend que la base de fans n'est pas du tout la même. Ce qui est important de comprendre, Danny, là-dedans, c'est qu'il y a les bails, il y a les stades, si l'équipe gagne, si l'équipe perd, si
il y a un championnat. Comme Manchester United qui est à la bourse aussi, je pense.
Exactement, elle est à la bourse. Et ce qui est important, c'est que la valorisation, on accorde une valorisation de 5 millions à Manchester United parce que présentement, à la bourse, elle vaut environ 3,7 milliards. Mais on considère qu'au privé, elle vaudrait au moins 5 milliards. Donc, c'est quand même bien. Puis c'est pas tout. Les Cowboys de Dallas, ça augmente et la valorisation augmente d'à peu près 30 % par année. Donc, c'est énorme. Il y a les revenus de télévision, il y a les contrats de télévision. On parle d'un contrat de télévision pour Manchester United qui frôle les 350 millions. C'est assez impressionnant. Puis, on regarde les contrats de télévision de, exemple, je reviens avec Sheffield, c'est 10 millions. C'est même pas dans la même ligue. Donc, on a deux divisions dans la même ligue. On va dire ça comme ça, c'est deux marchés, c'est deux brandings, c'est deux stades. Les revenus de billets ne sont pas les mêmes. C'est différent. Et cette disparité-là, elle est propre à cette ligue-là. C'est ça. Il y a une grande différence entre la valorisation des équipes. Là. C'est énorme. Et c'est très dans la valorisation d'une équipe, la profitabilité a très peu d'impact, on va dire, dans la valorisation. Comment est-ce qu'on va valoriser l'équipe? C'est qu'on va faire le nombre de fois ses revenus. Donc, on va faire 6 à 7 fois ses revenus. Okay. Donc, ce qui fait à peu près, donc pour Manchester United, c'est 700 millions de revenus, à peu près. Donc, ça revient à 4,2, 4,3, 4,5 milliards.
Là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Charles, très intéressant. On va s'en parler la semaine prochaine d'un sujet, à quelque part la semaine prochaine, de sport business.
Ça marche. Merci, Danny.
Merci beaucoup, Charles Demers, qui est le directeur général des Capitales de Québec et qui a un doctorat en sport business. Merci, Charles. Très intéressant. Merci, on s'en parle.
Merci, Danny.
C'est beau, on s'en parle. C'est bon.